Bonjour. J'aimerais commencer par féliciter Pascal pour sa réélection. Les Français ne sont pas souvent réélus ces temps-ci. Je crois que ce qui est frappant ce matin, c'est que nous avons tant de personnalités réunies à la tribune qui représentent des institutions internationales, des banques régionales et qui sont tous réunis pour parler ce matin de l'aide pour le commerce. Ce qui montre bien que les questions commerciales ne sont plus une question qui peut être dissociée du financement international, mais qu'il s'agit désormais d'une composante majeure pour sortir de la crise. Et je crois qu'il est tout à fait symbolique de voir que toutes ces personnes sont ici réunies, y compris Hélène Clark, qui est là pour la première fois. Il est donc tout à fait remarquable de voir autant de personnalités différentes réunies pour parler d'aide pour le commerce. Je serai bref et je commencerai par dire que les pays en développement ont été durement touchés par la crise économique mondiale. Les pays émergents, les pays d'Europe centrale, mais ailleurs également, ont connu un assèchement des capitaux ces dernières années. Parfois même, ces capitaux ont cessé d'arriver dans ces pays, d'où une détresse du système bancaire et financier. Le facteur déclenchant de la crise, à savoir les prêts immobiliers à risque aux États-Unis, les subprimes, est déjà derrière nous. Mais dans la plupart des cas, les conséquences pour les pays émergents se font sentir maintenant, conséquences de ce phénomène qui remonte déjà il y a 2 ans aux États-Unis. Et l'impact financier direct est encore limité dans certains pays parce que les liens entre le système financier international et ces pays-là n'étaient pas très marqués, mais les conséquences du ralentissement de la croissance se font, elles, sentir de façon notable avec une diminution des exportations, des flux d'IED et également des prix des produits de base, sans parler de la diminution des rapatriements de fonds de l'étranger. Toutes ces retombées menace de perdre les gains de croissance et de stabilité macroéconomique de ces dernières décennies. Où s'arrêtera la crise? Vous le savez, le FMI annonce, ainsi que d'autres institutions, que la reprise interviendra vraisemblablement au cours du premier semestre de 2010. Mais pour s'attaquer à ces retombées de la crise financière mondiale, nous ne pouvons pas attendre que la reprise intervienne. Et d'autre part, la reprise, même si elle doit intervenir au cours du premier semestre de 2010, cette reprise est incertaine et en ces temps de turbulences économiques, les prévisions sont encore plus incertaines qu'en temps normal. Et cette reprise ne pourra intervenir que si les bonnes politiques sont les bonnes. Tout le monde parle de signaux d'espoir, de signes positifs qui militent en faveur de prévisions de croissance, mais il faut néanmoins au préalable faire en sorte que le secteur bancaire assainisse son bilan. Les banques centrales sont intervenues massivement pour fournir des liquidités et elles ont gardé à l'esprit les erreurs de la Grande Dépression il y a 70 ans. D'autre part, différents plans de relance ont été mis en place là où cela était possible de par le monde, là où il existait une marge de manœuvre budgétaire. Et vous vous souvenez peut-être qu'en janvier 2008 déjà, le FMI demandait un plan de relance hausse de 2% et nous savons maintenant que cette relance au niveau mondial a atteint précisément ces 2% que nous demandions, avec des variations entre les pays en fonction des marges de manœuvre différentes de ces différents pays. Mais globalement, ces plans de relance ont permis d'endiguer la crise. Mais la troisième ligne de défense concerne le secteur financier. Et notre expérience au FMI, qui nous a amené à observer plus de 100 crises financières et bancaires dans le monde, de taille comparable, de gravité plutôt variable, de gravité variable, donc cette expérience que nous avons accumulée au FMI nous permet de dire que l'on ne peut jamais dire qu'il y a reprise, qu'il y a redressement tant que le bilan des banques n'est pas assaini. Certes, énormément d'efforts ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire. Et en fonction de la cadence de cet assainissement du bilan des banques, on pourra dire que la reprise interviendra plus ou moins vite. Mais imaginons que cette reprise intervienne véritablement au cours du premier semestre de l'année 2010. Cela veut dire que si nous ne croyons pas que le pire est passé, si nous continuons à nous atteler à la tâche, eh bien, nous pouvons obtenir des résultats. Et nous devons également agir sur le front commercial, parce que le commerce est pas uniquement une conséquence de la croissance, mais également un facteur de croissance. Et tout ce que vous êtes amené à réaliser dans cette salle doit aller de pair avec tous les efforts qui sont consentis au niveau financier, au niveau macroéconomique, tout cela pour retrouver la croissance. C'est pour cela que le financement à des conditions favorables, conformément aux engagements de Gleneagles, est essentiel pour éviter dans les pays à faible revenu l'adoption de politiques pro-cycliques qui risquent d'entraîner des réductions de dépenses et de faire en sorte que la dette s'installe. Alors, que fait le FMI? Eh bien, le FMI ne se préoccupe pas directement du commerce, même si le fait d'encourager le commerce relève également de notre mandat, mais ce que nous essayons de faire, c'est d'offrir une assistance technique, et je ne vais pas répéter ce que Bob vient de dire de façon tout à fait pertinente, mais nous essayons également de faire en sorte qu'un cadre macroéconomique favorable soit créé. Et il y a différents mécanismes qui existent, auxquels les pays ont accès, et différents pays, dont Haïti, la Zambie, Grenade, y ont déjà eu accès. Nous avons également augmenté notre aide à différents pays comme le Kenya, le Sénégal, la RDC et d'autres, dans le cadre d'un autre mécanisme. En d'autres termes, davantage de financement a été dégagé pour offrir des ressources à nos membres. D'autre part, il faut bien trouver les ressources pour mener de telles politiques. Nous avons fait en sorte que notre capacité de prêt soit multipliée par 3, mais dans le même temps, la plupart des pays se sont plaints, et parfois à juste titre, en disant que les conditions de nos prêts étaient trop rigides et qu'il fallait insuffler une plus grande souplesse dans nos prêts, ce qui a été fait, à mon avis. Et aujourd'hui, l'on tient compte de la situation historique et politique du pays, et pas uniquement des chiffres macroéconomiques qui, bien sûr, sont essentiels pour nous, mais nous tenons également compte de l'environnement qui explique ces chiffres macroéconomiques. Et nous le faisons plus que dans le passé, ce qui veut dire que les conditions sont plus rationnelles. D'autre part, nous mettons l'accent sur les conditions essentielles pour le succès des programmes et pas d'autres éléments qui sont peut-être intéressants pour le pays mais qui ne sont pas directement liés au programme, contrairement à ce que nous faisions dans le passé. Et nous essayons de le faire en faisant en sorte que des filets de sécurité soient renforcés lorsqu'ils existent ou créés lorsqu'ils n'existent pas, comme pour l'Arménie, la Côte d'Ivoire, le Pakistan, l'Ukraine. Dans ces pays-là, nous autorisons davantage de dépenses que ce qui était nécessaire, entre guillemets, simplement parce que nous souhaitons appuyer certains programmes sociaux, car comme vous le savez, la crise frappe le plus durement les personnes les plus vulnérables. Et dans le même temps, au cours de ces semaines à venir, ou peut-être au cours de ces mois à venir, vraisemblablement, car cela prendra un certain temps et la bureaucratie connaît certaines lenteurs, mais 250 milliards de DTS devraient être dégagés, comme cela a été proposé par le G20 en avril à Londres et comme cela a été confirmé à la réunion de printemps. Nous devrions donc procéder à cette affectation générale de DTS et cela voudra dire environ 20 milliards de dollars d'augmentation de réserves pour les pays à faible revenu, ce qui permettra d'obtenir des gains en termes de stabilisation.
Par le sujet de notre réunion de ce matin, c'est que, comme je le disais à l'instant, les différentes politiques de développement, de financement, de soutien macroéconomique ne suffisent pas aujourd'hui si nous ne sommes pas capables de maintenir un commerce ouvert. C'est là quelque chose d'absolument critique et qui passe par le développement de la stratégie commerciale, la puissance commerciale de beaucoup de pays en développement. Dans chacun de ces pays, ça a été évoqué par les orateurs avant moi, le redémarrage du commerce peut se faire aussi vite, parfois même un peu avant le redémarrage de la croissance dans ces mêmes pays. Dès que la croissance redémarrera dans les pays développés, et c'est sans doute par les États-Unis que le processus commencera, alors le commerce peut repartir. Mais évidemment, pour profiter de ces opportunités-là, il faut que les stratégies commerciales aient été mises en place, que les instruments des politiques commerciales aient été développés, et c'est là que l'ensemble du Aid for Trade, je ne sais pas bien comment on traduit Aid for Trade en français, aide pour le commerce me paraît un peu plat, alors on va rester sur Aid for Trade. Mais les différents éléments que comprend cette thématique doivent être mis en place. Bien sûr, le fait d'arriver au bout du cycle de Doha est un élément tout à fait majeur. Je crois qu'il y a aujourd'hui plus d'espoir qu'il y en a eu souvent, et ça repose beaucoup sur vos épaules et celles de Pascal Lamy, votre directeur général, mais vous savez que le monde entier a les yeux tournés aujourd'hui vers la possibilité nouvelle, compte tenu des évolutions politiques un peu partout, de conclure ce cycle. Mais le cycle en lui-même ne suffit pas. Il faut que ce sujet particulier de l'Aid for Trade comprenne apporte toutes ces briques à la construction qui est celle de la reconstitution d'un commerce mondial dynamique. Je crois que c'est vraiment absolument critique. Et c'est absolument critique pour en particulier pour les pays en développement, s'ils veulent pouvoir bénéficier aussi vite que les autres du retour de la croissance. Il ne faut pas être naïf. Certains pays en profiteront plus que d'autres, mais ceux qui en profiteront plus que d'autres seront pour beaucoup ceux qui auront su plus que d'autres se mettre en situation d'en profiter. Et c'est là que je voudrais moi aussi ajouter une petite pierre à ce thème du protectionnisme. Traditionnel, surtout dans cette enceinte, de dire tout le mal qu'on pense des politiques protectionnistes. Des échecs auxquels elles ont conduit. L'histoire en est pleine. Des exemples que nous avons tous sous les yeux où, pour des raisons politiques que chacun comprend, il est souvent bien difficile sur le terrain de résister à la pression de ses électeurs. Ce que je voudrais souligner pour ma part, c'est une sorte de protectionnisme nouveau qui rentre par la fenêtre quand on a réussi à contenir ou à limiter ce qui est protectionnisme sur les biens et sur les services, se crée aujourd'hui un protectionnisme financier. Et la façon dont la plupart des banques occidentales ont rapatrié leurs capitaux des pays en développement est une forme nouvelle du protectionnisme qui consiste à s'occuper de sa propre économie sans se préoccuper des dégâts que cela peut créer dans les autres économies et sans tenir compte des effets en retour que ça créera sur sa propre économie. J'ai en tête plusieurs pays développés dans lesquels des efforts assez importants ont été faits en ligne avec ce que je disais tout à l'heure sur la recapitalisation des banques et l'assainissement du système bancaire, et où le ministre des Finances, après avoir fait voter dans son Parlement des sommes relativement importantes pour recapitaliser ces banques, réunit ses banquiers pour leur dire: écoutez, tout ça c'est bien gentil, mais cet argent ça reste chez nous, vous n'en servez pas à l'extérieur. Eh bien, cette forme de nouveau protectionnisme menace, il est plus difficile à mettre en évidence, il est aussi plus difficile à combattre, mais il menace tout autant que le protectionnisme traditionnel, avec les mêmes conséquences néfastes. C'est donc tout cela que nous devons avoir en tête. Ce dont je veux vous assurer ce matin, c'est que le Fonds monétaire, comme toutes les institutions qui sont sur cette estrade, mais je ne m'engage évidemment que pour le Fonds monétaire est à vos côtés, non seulement pour aider autant qu'il le peut au développement, mais je dirais comme Pascal, le Fonds n'est pas une agence de développement, c'est une agence qui a vocation à contribuer à l'équilibre macroéconomique et macrofinancier. Pour autant, c'est la condition du développement. Donc être à vos côtés aussi pour les questions de développement, et tout particulièrement au travers de ces questions commerciales et de financement du commerce, qui nous paraît aujourd'hui un des points sur lesquels l'accent a été mis. Les résultats ne sont pas encore suffisamment là, et les efforts seront nécessaires si on veut que chacun d'entre vous puisse profiter de la reprise prochaine. Merci.